Il y a des femmes comme ça qui ne sont pas forcément natives du petit village de Pierrefonds, situé au sud-est de Compiègne, et qui pourtant s'y sont attachées et ont participé à sa renommée. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de l'une d'entre elles grâce à Marine Bilbao, guide conférencière à Pierrefonds. En commençant par une femme qui a marqué l'histoire du village, surnommée la comtesse de Pierrefonds, il s'agit de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, et d'ailleurs je vous propose de revenir sur leur rencontre et sur leur histoire.
Comment ils se sont rencontrés? Alors ça s'est passé dans différents châteaux en France, mais principalement à Compiègne. C'est une anecdote que j'apprécie particulièrement, c'était pendant un hiver au château de Compiègne. Napoléon III n'est pas encore Napoléon III, il est encore Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française. Il vient d'acquérir le château de Compiègne et donc il décide d'inviter Eugénie de Montijo avec sa mère pour qu'il y ait un chaperon quand même. Eugénie de Montijo, vraiment, elle s'en fiche un petit peu de cet homme. Elle le regarde à peine, elle sait que c'est un coureur de jupons. Sauf que, il faut quand même faire bonne figure. Donc c'est un matin très tôt, ils décident de se promener tous les deux, accompagnés toujours de la mère, hein, dans le parc du château. C'est en décembre et il y a de la rosée en fait sur l'herbe. Et là, elle tombe vraiment nez à nez avec un trèfle où il y a de la perle de rosée dessus. Elle le ramasse et vraiment, le regard qu'elle porte à ce trèfle, eh bien ça, le futur Napoléon III en tombe littéralement amoureux. Donc il décide de lui offrir, quelques mois plus tard, une broche en émeraude et diamant, mais représentant ce fameux trèfle de Compiègne. Un petit clin d'œil à leur premier date, hein, comme on peut dire maintenant, leur premier rendez-vous au final.
Elle est d'ailleurs du coup surnommée comtesse de Pierrefonds. Pourtant, son enfance, si je ne me trompe pas, c'est pas ici qu'elle l'a passée. Elle l'a passée entre Biarritz et la cour d'Espagne. Comment est-ce qu'elle a découvert ce village au final?
Alors, c'est en partie grâce à son époux, à Napoléon III. Il tombe littéralement amoureux des ruines du château de Pierrefonds, parce que oui, le château de Pierrefonds a été en ruine. Voilà, on est à l'époque du romantisme et ils se disent pourquoi pas rebâtir ce château pour pouvoir y vivre. Donc, ils font appel à Eugène Viollet-le-Duc, l'architecte, mais vraiment. Eugénie s'y sentira vraiment très bien ici dans le village de Pierrefonds, surtout que c'est à partir du 19e siècle où vraiment le village commence à se développer, va devenir un village thermal qu'elle va parfois privatiser à son compte personnel avec ses dames de compagnie. Elle est vraiment amoureuse de ce village.
Pour recontextualiser un peu pour les auditeurs, donc là on est dans Pierrefonds en train de se promener, on a derrière nous le château de Pierrefonds du coup, et il a été reconstruit à partir de quand?
Alors à partir de 1857, donc on est au milieu du 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle, donc pour avoir une date précise on est en 1885 pour l'arrêt des travaux.
Le couple a choisi le château de Pierrefonds, est-ce que de base c'était le seul château qu'ils avaient en tête?
Non du tout, ils hésitaient aussi avec le château de Coucy dans l'Aisne. Je ne sais pas si vous connaissez.
Dans la région aussi.
Ils ont vite préféré Pierrefonds, certainement vu à sa proximité avec le château de Compiègne, le palais de Compiègne. On n'est qu'à une heure à cheval à l'époque, donc c'est un peu plus proche.
Une femme qui n'a pas non plus commencé sa vie à Pierrefonds, mais qui a fini dans le village en tout cas, c'est Séverine, qu'on appelle principalement sous le pseudonyme de Caroline Rémy. C'est une grande féministe et c'est surtout l'une des premières femmes européennes à défendre ses droits et à devenir journaliste pour faire valoir ses idées. Racontez-nous un peu son histoire. Qu'est-ce qui a fait qu'à cette époque, elle décide de se rebeller, entre guillemets?
Déjà, tout commence à l'âge de 19 ans. Voilà, elle est mariée de force à un homme qu'elle connaît à peine, un homme violent en plus, qui la bat. Ils vont tout de même avoir un enfant ensemble, mais rapidement, elle va tomber amoureuse d'un professeur en médecine. Elle devient son amante jusqu'en 1879, où là, elle donne naissance à un enfant qu'elle a eu avec cet homme, avec son très grand amour. Et surtout, cette même année, elle rencontre en Belgique un autre homme. Mais là, aucune affaire d'intimité du tout. Ça va être simplement des amis, de très proches amis. C'est Jules Vallès. C'est le fondateur du Cri du Peuple, donc un journal que vous devez certainement connaître.
Il était écrivain aussi, non?
Exactement, ouais. Écrivain aussi. Et il va lui apprendre les ficelles un peu du journalisme, mais aussi tout l'aspect presque ultra-gauchiste de l'époque. Elle va évoluer dans ce milieu-là, grâce à lui.
Des femmes journalistes, à l'époque, il y en avait qui étaient quand même chroniqueuses, tout ça, mais elle, c'est vraiment l'aspect reporter du journalisme qui fait qu'elle a été l'une des premières femmes.
Oui, exactement. Puis même au niveau du féminisme, c'est vraiment la femme qui, elle était contestataire. Hein. Elle faisait bien comprendre que pourquoi les hommes pouvaient, par exemple, avoir le droit de vote, alors que nous, les femmes, nous ne pouvions pas. Donc elle est considérée vraiment comme l'une des suffragettes. Hein. Et elle s'insurge devant l'interdiction d'entrer au Parlement pour les femmes. Elle a une citation qui est assez incroyable. Elle écrit par exemple « Cet ignorant qui ne sait ni lire ni écrire, si incapable de distinguer sa droite de sa gauche, est électeur. Ce pochard qui ne désemplit pas, de l'aube au crépuscule et du soir au matin, ce semblant d'homme, aviné, octeux, baveux, ayant laissé sa raison au fond du premier verre, ce pochard est électeur. » Ça prête à rire, mais on se dit quand même c'est un pavé dans la mare, elle ose écrire ça. Donc oui, il y a déjà des féministes à l'époque, mais là, je sais pas, je la trouve vraiment... elle a osé, quoi.
Est-ce qu'elle écrit tout de suite sous ce pseudonyme ? Est-ce qu'elle se reconnaît tout de suite comme étant femme ? Ou est-ce qu'au début, elle se cache un peu derrière une image qu'elle n'assumera pas forcément ?
Alors, déjà, quand elle travaille pour Jules Vallès, donc elle devient son secrétaire. Il n'y a pas encore de féminin pour ce métier. Donc, elle est son secrétaire. Donc, elle se fait un peu la main au niveau du journalisme. Mais c'est une fois le décès donc, de Jules Vallès, c'est elle qui va prendre la rédaction en main du journal, donc du Cri du Peuple. Sauf que quelques années plus tard, environ 3 ans après ses débuts, en tant que rédactrice en chef, il y a des histoires en interne avec un marxiste. Et elle décide de se retirer de ce journal et d'aller publier dans d'autres journaux, souvent qui ne sont même pas de la même conviction qu'elle, mais au moins ça lui permet de se faire un nom, de se faire connaître, de se faire encore plus la main. Et elle va publier sous le nom de Séverin, dans un premier temps, qu'elle féminisera plus tard pour Séverine.
Et c'est quoi ses principaux sujets du coup de prédiction ? Alors forcément, il y a les femmes, mais si je ne me trompe pas, elle ne s'intéresse pas uniquement qu'aux femmes.
Non, du tout. Il y a aussi la cause le cas Dreyfus aussi, où elle s'insurge face à cette histoire qu'on a eue donc, dans l'histoire française. Ce qui est assez étonnant parce que dans certains de ses textes, elle a presque des paroles antisémites, mais elle défend tout de même Dreyfus. Donc il y a une sorte de contrario qui se fait, c'est assez intéressant.
On a une rue à Pierrefonds ici qui porte son nom. Mm-hmm. Ça a été inauguré à partir de quand et du coup c'était bien pour elle.
Alors effectivement, il y a la rue Séverine, oui, éponyme. La rue a été inaugurée à partir des années 1960, si je ne dis pas de bêtises. Si vous voulez, on peut même aller jusqu'à cette fameuse maison, qui est la maison de Séverine, la maison aux trois marches.
Du coup, ouais, c'est vraiment là qu'elle a vécu, c'est la rue où il y avait sa maison.
C'est ça, en fait. Elle louait déjà quelques maisons vers la fin du 19e siècle, donc dans les années 1890, elle se retire à Pierrefonds. Donc pour être au calme, voilà, pour avoir le temps de penser, Pierrefonds, c'est déjà un village assez connu, parce que grâce au couple impérial, qui était venue donc jusqu'en 1870. Elle décide de se retirer ici, fin 1890. Elle va louer plusieurs maisons jusqu'à en acheter une, donc celle qu'on va voir juste après. Elle va aussi l'agrandir en ajoutant deux bâtiments latéraux, donc histoire de pouvoir recevoir le maximum d'amis possible. C'est une grande amie des animaux, comme vous l'avez dit. Elle va avoir beaucoup d'animaux autour d'elle, des ânes, des chiens, enfin tous les animaux qu'elle peut recueillir, elle le fait. Lorsque Séverine décède ici à Pierrefonds, donc au mois d'avril 1929, son amie Marguerite Durand, qui est rédactrice de La Fronde, un journal féministe, décide de racheter sa maison pour pouvoir en faire une maison de repos pour les femmes journalistes.
L'amour que portent les femmes au village de Pierrefonds, un reportage réalisé par Axel Corby pour Radio Graphite, en co-création avec Marine Bilbao, guide conférencière à Pierrefonds.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.